caresse de l'air que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré. Toi dans les bras on su barrer sa route atroce à ma démence, et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse.
Bonjour, vous écoutez bien l'émission Vendémiaire sur Radio Canus 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. L'émission consacrée à Elsa Triolet, la 16e mais dernière pour évoquer son parcours, les dernières années donc. Toujours avec, bien sûr, Maria Berlioz et Jean Knouf de l'association Salaët, la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet. Nous aurons beaucoup de paroles dans cette émission parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces dernières années jusqu'à son décès le 16 juin 1970. Bonjour à vous et je vous donne la parole.
Bonjour à vous. Voilà, nous voilà arrivés à la dernière étape du parcours d'Elsa qui va nous conduire de 1964 à donc au 16 juin 1970. 1964, pourquoi ? Eh bien, pour plein de raisons, et on va intituler cette première partie « La preuve par l'autre ». Alors, on va expliquer pourquoi ce titre. Mais tout d'abord, 1964, c'est une année importante parce que c'est la vie, hein, les plus proches nous quittent et on se retrouve comme ça, petit à petit, au premier rang. Et donc, il va y avoir trois disparitions importantes pour Aragon et Elsa. La première, c'est celle de Tristan Tzara, hein, le fondateur du dadaïsme, avec qui Aragon et Elsa sont restés très liés. D'ailleurs, Tzara collaborait régulièrement aux lettres françaises. La deuxième, c'est un personnage moins connu, mais très important dans l'histoire de la littérature et du cinéma, parce que c'est sans doute le premier historien du cinéma, spécialiste d'Eisenstein. C'est Léon Moussinac, qui est également un excellent introducteur au théâtre et aux techniques du théâtre, hein, puisque c'est un de ceux qui a pensé le théâtre non plus simplement à partir du texte littéraire, mais à partir du spectacle, du décor, des costumes, etc. Donc Léon Moussinac meurt en mars. Et enfin, alors là c'est beaucoup plus politique, mais ils étaient également très liés avec le couple, disparition de Maurice Thorez, à qui Aragon doit tant, hein, puisque on l'a dit et redit, c'est lui qui le fait rompre avec cet itinéraire gauchiste, un peu anarchisant, etc. Enfin, sur le plan de la politique internationale, Et c'est un événement considérable, c'est le limogeage de Khrouchtchev. Et on sait que Khrouchtchev, ça nous renvoie aux années, ça nous renvoie à 1956, le rapport Khrouchtchev, ce qui donne dans l'écriture le roman inachevé d'Aragon et le monument d'Elsa, hein, qui est sans doute une critique très importante du système. Mais 1964. Dans la vie du couple, c'est le moment où va naître le projet des œuvres romanesques croisées. Hein, on a déjà parlé de ça, on y a fait allusion. Parce que les œuvres romanesques croisées, c'est unique dans l'histoire de la littérature universelle. On sait combien il est difficile dans un couple d'artistes d'être artiste à deux parce que l'art c'est une affaire de désir, c'est une affaire d'amour et c'est compliqué ce dialogue. Et Aragon et Elsa donc c'est des livres qui se vendent par souscription. Au départ le projet est sur 32 volumes. En fait à l'arrivée il y en aura 42. D'ailleurs malheureusement Elsa ne verra pas les 10 derniers. Et le principe, c'est alternance, un volume consacré à Elsa, un volume consacré à Aragon. Alors, par exemple, le premier volume paraîtra le 30 septembre 1964, qui sera consacré à Elsa, et il comprendra « À Tahiti »,« Bonsoir Thérèse » et « Les Manigances ». Et le second volume sera consacré à Aragon avec « Anicet » et « Le libertinage ». Voilà, deux œuvres donc de l'époque surréaliste. Alors, l'originalité de cette collection, c'est qu'il y a une présentation qui est faite par les auteurs et le premier volume s'ouvre donc par ouverture. Et ouverture, il y a ces paroles d'Elsa qui justifient le projet des œuvres romanesques croisées.
Quand nous serons enfin des gisants, l'alliance de nos livres nous unira pour le meilleur et pour le pire. Dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci majeur à toi et à moi. La mort aidant, on aurait peut-être essayé et réussi à nous séparer plus sûrement que la guerre de notre vivant. Les morts sont sans défense. Alors, nos livres croisés viendront noir sur blanc, la main dans la main, s'opposer à ce qu'on nous arrache l'un à l'autre.
Alors cette thématique de l'arrachement, de l'opposition, de destruction du couple, on va retrouver ça tout au long de l'émission et ça va être la hantise justement, la hantise d'Elsa. Alors les lignes que Maria vient de lire, ben elles sont gravées sur leur tombe à Saint-Arnoult en Yvelines. Hein, on l'a dit à plusieurs reprises, faut absolument aller visiter ce lieu qui est vraiment unique en son genre.
Et puis elle continue aussi par « Nous aurons été de ceux-là qui ont cherché, quitte à nous tromper, à en périr. » Et nos livres se mettent à le dire, peu à peu, indirectement, directement, suivant notre destin, nos horizons, enchevêtrés dans la vie.
Donc ce projet, ils sont convaincus qu'avec ce projet, justement, jamais ils ne seront séparés. Et on va voir... On va voir tout de suite après quelles sont les raisons justement qui font de ce projet. Alors, comme je le disais tout à l'heure, chacun des volumes est précédé d'une préface. Et voilà ce que dans le volume 2, c'est pas dans le volume 2, c'est dans un article qui paraît ultérieurement dans les lettres françaises en 1967, voilà ce qu'Aragon explique à propos de ces préfaces. Elles sont à la fois notre histoire à nous et une histoire de notre temps, la nôtre, la vôtre, si bien que de ces deux caractères-là se dégage la troisième, l'essentiel sans doute, une véritable théorie du roman moderne, et je pense qu'on les lira ensemble, parce que de les dissocier les priverait du témoignage de l'autre, de la preuve par l'autre. Donc ce qui justifie le titre qu'on a choisi de donner à cette première partie, la preuve par l'autre, c'est-à-dire que l'un s'explique et se comprend par rapport à l'autre. Et ça c'est, encore une fois, c'est vraiment unique dans l'histoire de la littérature. Alors cette longue élaboration des œuvres romanesques croisées va déterminer leur roman suivant. On va trouver, et on va en parler ensuite, Le Grand Jamais, roman d'Elsa Triolet, qui se croise avec La Mise à mort d'Aragon. Et tous deux sortent en 1965. En 1967-1968, deux autres romans paraîtront, Blanche ou l'oubli et Écoutez voir d'Elsa, qui poursuivent leur dialogue. Et puis également, une chose que je voudrais faire remarquer, on y reviendra à propos d'Écoutez voir, mais ça me paraît essentiel, c'est que lorsqu'Aragon parle d'une véritable théorie du roman moderne, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes d'ailleurs, bon, ont un parcours, ils font par exemple scandale au début de leur carrière, etc. Puis ensuite, bon, finalement, ils naviguent sur cette lancée. Alors que chez Aragon et Elsa, et ça je trouve qu'on ne le dit pas assez, il y a une perpétuelle remise en question. Par exemple, quand éclate le nouveau roman avec une critique de la narration, etc. Bon, on voit des romanciers, je pense par exemple à Mauriac, hein, qui est quand même le grand romancier de l'époque. Bon, ben Mauriac, il écrit plus, il dit bon, ben c'est fini, mon temps est fini, il fait ses chroniques dans le Figaro, puis c'est terminé. Alors que justement, ils vont questionner en permanence, et bon, c'est ce qui se passe notamment. Bon, c'est vrai que La Mise à mort et Blanche ou l'oubli chez Aragon, c'est fabuleux, quoi. Et on va voir également, même si c'est moins connu, que Elsa, elle remet également en question les processus narratifs. Voilà, mais ça, on va y revenir ensuite. Alors, peut-être qu'à l'origine de cette hantise d'être séparés, il y a toujours ce qui se passe en Union soviétique. Alors, Elsa Triolet va effectuer son dernier voyage en compagnie d'Aragon en Union soviétique fin 1964. Donc, puisqu'ils y vont, ils s'y rendent pour les fêtes de Noël. Hein, ils partent de Paris le 21 décembre 1964. Et il se passe... Elsa va découvrir cette entreprise qui va consister à séparer Mayakovsky des sœurs Kagan, hein, en particulier de Lily, bien sûr. Mais auparavant, ce que je voudrais dire, parce que les accusations de stalinisme, de complicité avec ce régime qu'on qualifie un peu sans nuance de totalitaire, dire quand même que à l'origine ce sont eux qui ont découvert le recueil de nouvelles de Solzhenitsyn qui s'appelle Une journée d'Ivan Denisovitch. Et voilà ce que Elsa pense et oui. Écrit à sa sœur Lily à propos de ce livre de Solzhenitsyn.
C'est une nouvelle remarquable. J'ai le cœur en capilotade, comme après un accident de voiture. Nous sommes rendus coupables d'Ivan Denisovitch, coupables par notre naïveté. Confiance, c'est nous les fautifs, mais nous les avons soutenus sans s'en rendre compte.
Voilà. Alors, d'ailleurs, Aragon fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le livre soit bien traduit, et je crois qu'il est paru avec une préface de Pierre Dex, qui à l'époque était leur plus proche collaborateur. Alors dans ces années 60, oublions pas, hein, on l'a pas redit, on en a parlé la dernière fois, que ce sont des années de souffrance pour Elsa Triolet, hein, artérite, maladie de cœur, etc. Elle se déplace avec difficulté, elle marche très mal. Ils ont fait installer une sorte de monte-charge à l'intérieur de l'appartement rue de Varennes. Enfin, pour elle, elle souffre énormément. Son caractère, d'ailleurs, s'en trouve de ce fait modifié. Et alors, il se trouve qu'en Union soviétique, le responsable de la culture, c'est un dénommé Souslov, qui s'acharne justement contre Lily. Il s'acharne contre Lily en essayant de réécrire la vie de Mayakovsky. Et l'entreprise va atteindre son comble en avril 1968. Il y a une revue littéraire qui s'appelle Ogoniok et qui publie un long article intitulé « Amour de poète ». Et dans cet article, eh bien, disparaissent tout simplement Lily et Elsa, les deux sœurs Kagan. Alors, il se trouve, c'est là où les choses sont extrêmement complexes. Elsa Triolet, sans revendiquer sa judéité, est tout de même un petit peu heurtée par la politique soviétique par rapport à Israël, et également par celle qui est très calquée à l'époque sur celle de l'Union soviétique du Parti communiste français. Et elle trouve que cet antisémitisme il devient pour elle un objet de souffrance. Et donc, elle est scandalisée parce que toute la vie amoureuse de Mayakovsky tourne autour de cette femme russe qu'il a rencontrée à Paris, Tatiana, qui est en fait une russe blanche, mais qui est transformée en héroïne du peuple soviétique, etc. Alors que les sœurs Kagan, qui ont tout de même construit Mayakovsky, ou quelqu'un d'aussi important qu'aussi brique sur le plan de la critique littéraire, qui a contribué à construire Mayakovsky sur le plan de la littérature, tous ces gens-là sont complètement gommés et disparaissent complètement d'une biographie officielle de Mayakovsky. Et c'est ce qui va amener Aragon à publier son livre « Elsa choisie par Aragon », qui entend valoriser sa femme en tant qu'écrivain. Et de son côté, Elsa, qui milite toujours pour la Russie, publie son anthologie de la poésie russe, qui est d'ailleurs préfacée par Roman Jakobson, hein, qui est son amour d'antan. Alors, à partir de là, il va y avoir un rebondissement sur leurs œuvres, et en particulier sur l'œuvre d'Elsa Triolet, pour lutter contre les faussaires de l'histoire. Et lutter contre les faussaires de l'histoire, comment est-ce qu'on réécrit l'histoire et comment est-ce qu'on trahit l'histoire en la réécrivant? Alors, ça va donner un premier roman qui s'appelle Le Grand Jamais. Le Grand Jamais, qui est publié le 22 janvier 1965 chez Gallimard et qui sera suivi d'Écoutez voir en octobre 1968. Alors, l'argument du Grand Jamais, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un roman, d'ailleurs, qui débute de manière assez amusante, puisque c'est l'enterrement du personnage principal, du protagoniste, raconté par lui-même depuis son cercueil. Alors, avec, bon, les habituelles plaisanteries, tiens, celui-là est venu, tiens, ça m'étonne, par contre, tiens, il est pas là, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, donc ça commence sur un ton plutôt plaisant, mais en fait, ce Régis Lalande, c'est le nom du personnage principal, c'est un historien qui a une thèse paradoxale, c'est l'impossibilité de reconstituer correctement l'histoire. Et c'est vrai que dans un processus historique, dans la mesure où un historien, un véritable historien, il prend une posture qui est la posture d'un scientifique, c'est-à-dire qu'il faut confronter les faits, s'intéresser aussi à ce qui a été raconté, enfin toutes ces évolutions qu'il y a eu dans l'histoire moderne, hein, Braudel, etc. Et sa femme, donc la femme de Régis Lalande, qui vient de mourir, c'est un peu la Lily par rapport à Mayakovsky. Elle défend l'héritage de son mari. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre qu'après sa mort, cet homme qui avait beaucoup de disciples parce qu'il avait un rayonnement intellectuel très important, ben cet homme est constamment trahi par ses disciples. Voilà. Et c'est l'histoire justement. Ben c'est l'histoire de ces faussaires, hein, qui vont complètement détruire le message original, évidemment. Ça renvoie à Mayakovsky, à Lili Brick, et voilà ce que.
Et puis aussi, je crois, la personnalité de Mayakovsky, dont on décrit autrement, de cette nouvelle manière de décrire l'histoire en URSS. Ayant perdu la bataille contre sa poésie de son vivant, les détracteurs de Mayakovsky ont inventé de l'annexer, fabriquant avec le grand pouvoir de la presse à gros tirage et toute l'édition entre leurs mains, un Mayakovsky sur mesure. Ce fondateur du futurisme russe, cet épateur de bourgeois, avec sa blouse jaune et son haut de forme, ce géant de génie qui a bouleversé la poésie russe de fond en comble, Amateur de scandale, exclu de l'école des beaux-arts, ce communiste qui, à l'âge de 16-17 ans, a fait un an de prison, ce bagarreur forcené pour l'art d'avant-garde, devient sous la plume de ses biographes et de nombreux mémorialistes un doux agneau, un sage élève de patronage, une victime de son entourage, fait de bandits d'avant-garde tels que Brick, Pasternak, Eisenstein, Meyerhold, Babel, Malevich, Tatlin, etc. Bref, toute la fine fleur de l'art soviétique que Maïakovski a su attirer autour de la revue LEF, qui veut dire Front de Gauche, dont il était le rédacteur en chef. Sa vie privée, son amour et ses amours, tout est passé au peigne fin. Cas unique dans la presse soviétique. Et arrangé selon les canons actuels de bonne conduite dans l'art et la vie quotidienne. Ses proches, ses amis, n'ont à leur disposition qu'une ou deux revues à tirage limité, où l'on imprime timidement quelques démentis et rectifications. Autant dire un grain de sable dans le désert.
Et par-delà cette solidarité donc avec Lili, puis ce souci de rétablir la vérité historique sur Maïakovski et ce qu'il était, il y a cette angoisse d'Elsa sur le couple qu'elle forme avec Aragon et sur ce qu'on dit d'Aragon et je pense que c'est vrai encore aujourd'hui. Sur Aragon, on entend tout et n'importe quoi. Et là, elle prend un exemple sur la fameuse ode à Staline.
Et que n'a-t-on pas écrit sur nous deux ? À ne pas y croire. Et on y croit, du moment que c'est imprimé. Ainsi, par exemple, de cette ode à Staline que l'on signe Aragon. Aragon n'a jamais écrit d'ode à Staline. Il aurait pu, lui, en son temps, en avoir écrit une, seulement il ne l'a pas fait. C'est ce qui devrait être lumineux dès le premier vers de cet ode. « Je te salue, le grand-père des peuples. » Grotesque. Et il ne sert à rien de démentir. François Mauriac lui-même cite l'ode à Staline d'Aragon avec indignation.
Et ça, ce sont des choses qui ont la vie dure. On parlait tout à l'heure. Moi, je me souviens d'avoir rencontré au cours d'une fête du livre une femme, très engagée à gauche, qui m'attaque sur Aragon, justement à propos de l'ode à Staline, une ode à Staline. Or, il se trouve qu'il y a bien eu une ode à Staline, mais c'est Éluard qui l'a écrite. Et c'est vrai, Aragon n'a jamais. Mais j'ai sorti toutes les Pléiades, l'œuvre poétique, mais en lui disant, mais je veux la lire, moi, cette ode à Staline. Mais non, il y a rien à faire, quoi. On est dans le domaine de la croyance, de la. Enfin bon, c'est vraiment. C'est des choses qui ont la vie dure. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est le grand jamais, donc, s'attaque à cette question. Et c'est vraiment. C'est vraiment un roman à lire. Hein. C'est un roman qu'on peut conseiller. Seulement, je sais pas si on le trouve toujours. Enfin, je sais qu'il est paru en livre de poche dans la collection Folio, mais Gallimard met beaucoup de mauvaise volonté à rééditer tous ces textes, en particulier d'Elsa Triolet, à part Rosa Crédit. Alors, je sais pas si on le trouve encore. Voilà, ça c'était pour le grand jamais. Alors trois ans après, elle fait Elsa édite Écoutez voir. Alors Écoutez voir reprend comme héroïne Madeleine Lalande, donc la veuve de Régis, mais avec c'est une femme qui a vieilli, c'est une femme dans le grand jamais qui est très très belle, très séduisante. Et très très curieusement, on retrouve ce thème tragique chez Elsa Triolet, qui est ce thème de la vieillesse, de la déchéance et de l'errance. Hein. C'est un petit peu comme une sorte de clochardisation. Hein. Alors, Voilà ce que Scarragon écrit à ce propos. C'est écrit après la mort d'Elsa, dans un numéro spécial de la revue Europe qui lui a été consacré, donc après son décès. « Je sais, moi, que presque tous les livres d'Elsa lui ont donné la tentation d'amener quelqu'un, et de préférence homme ou femme, quelqu'un à qui elle ait donné plusieurs de ses traits propres, à cette fin de vie, désespérée, qu'évoque le mot clochard, et sans doute pire, d'être entendu au féminin. » Donc on va retrouver ça, dans, écoutez voir, avec cette longue déchéance de Madeleine Lalande. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et là ça nous renvoie à la théorie du roman, c'est que écoutez voir innove dans la forme. En effet, Elsa va tenter dans son récit de mettre en place une étroite correspondance entre les illustrations et le texte. Alors, à l'origine de ça, il y a évidemment les œuvres romanesques croisées, hein, les œuvres romanesques croisées, donc cette collection des 42 volumes, qui est illustrée par des reproductions de je pense à Matisse, hein, qui est omniprésent, Picasso, mais également des photographies ou des collages. Enfin, on trouve c'est l'illustration des œuvres romanesques croisées, elle est extraordinaire. Il y aurait d'ailleurs un recensement à en faire. C'est d'une très, 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 très grande richesse. Et de fait, Elsa a pris goût à cette recherche, d'autant plus qu'elle, comme Aragon, sont très proches de l'art et sont des grands amateurs en particulier de peinture. Et ce goût, le goût de cette recherche entre l'image et le texte lui est venu donc, et elle l'a poursuivi dans Écoutez voir. Sauf que le livre qui est édité par Gallimard devient un objet extrêmement coûteux et donc va également demander à Elsa beaucoup de travail de recherche La maladie, sa difficulté à se déplacer vont faire que les choses sont difficiles. Donc voilà ce qu'elle dit de ce parti pris de lier texte et image.
Ici, le texte est né avec l'image, en même temps ou parfois avant les mots qui le forment et qui sont venus à partir de l'image déjà existante. Qu'est-ce que l'image ajoute à la chose écrite? Qu'est-ce que la musique ajoute au poème? Ici, j'ai choisi, sinon écrit, ma musique moi-même.
Et il y a un dernier trait qui est intéressant dans ce livre, et là ça rejoint un autre aspect de la théorie du roman. Elsa est très attentive, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Aragon, à ce moment ce moment qu'on a nommé le nouveau roman. D'ailleurs, c'est un peu fourre-tout, puisque finalement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de différences entre tous ces gens sur qui on a collé une étiquette. Mais elle s'intéresse en particulier à Nathalie Sarraute, et ce qu'Elsa va introduire dans son récit d'Écouter voir, dans le Grand Jamais, il y a la narratrice qui est Elsa, et puis son personnage principal, Madeleine. Alors, comme dans le roman classique, la narratrice intervient. Bon, elle est omnisciente, hein, c'est elle qui crée le personnage qui n'est qu'un personnage de papier. Et là, dans Écoutez voir, Elsa va renverser les choses, c'est-à-dire que Madeleine Lalande va s'adresser à sa narratrice en disant tu me fais dire ceci, etc. Il y a ce jeu, justement, qui, à l'époque, aujourd'hui, c'est devenu banal, mais dans les années 60, une époque quand même de grands bouleversements, pas seulement social, mais également sur le plan des arts, sur le plan esthétique, c'est une nouveauté qui est intéressante. Donc, Écoutez voir, roman, à ma connaissance, il a jamais été édité en poche parce que les questions d'illustration, ça rend les choses difficiles. Mais on doit toujours le trouver chez les bouquinistes. Donc il est paru chez Gallimard. C'est un roman novateur et intéressant. Voilà. Donc là, sur cette période, on va passer à autre chose. Alors je sais pas, on pourrait peut-être faire une petite pause. Ah oui.
Avec cette chanson, Rossignol en est le titre. C'est un texte à partir d'Elsa Triolet, écrit par Guilvic, donc musique de Philippe Gérard. C'est Jeanne Moreau qui l'interprète.
Je me dis que le rossignol est sans pitié. Il ne chante pas la pitié, ni par pitié. Il se chante, il s'enchante, il s'habitue au monde pendant le temps qu'il a pour vivre et pour chanter. Il chante, il mange, il dort, pense qu'il a mangé, chanté, qu'il va dormir, chanter encore. Vous admettez le rossignol.
Nous reprenons le cours de cette 16e et dernière émission consacrée à Elsa Triolet pour évoquer la fin de sa vie avec Maria Berlioz et Jean Knopf.
Alors, on arrive dans des années difficiles, ces années de fin de vie, souffrance accrue pour Elsa. Et puis la situation, ce qu'il faut bien voir et comprendre, c'est que tout ce en quoi Aragon et Elsa ont mis leur vie et leur engagement, je pense, à ce qui se passe dans les pays de l'Est. Cette promesse née en 1917, de changer le monde, de le transformer, d'émanciper l'humanité, c'est quand même un projet gigantesque. Bon, ben, 1968, c'est le printemps de Prague, l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques. Et là, Aragon, en tant que directeur des lettres françaises, prend vigoureusement position là-dessus. Bon, le Parti communiste sans doute plus mollement. Et d'ailleurs, ça va amener la disparition des lettres françaises, puisque tous les abonnements venus des pays de l'Est qui étaient nombreux, bon, vont cesser comme par hasard, et donc les lettres françaises disparaîtront, ce qui amènera ce texte fameux d'Aragon, j'ai raté ma vie, quoi. Et ça, c'est terrible, hein. Les troupes du pacte de Varsovie entrent à Prague le 21 août. Donc ça devient très insupportable. Bon, sans parler de procès, il y a eu le procès de Sinyavsky et Daniel à Moscou. Ça, c'était en 66. Là où il y a un engagement de leur part, alors là, il faut encore renvoyer, par exemple, un texte comme Le Monument, qui là-dessus est très clair. C'est aussi le congrès d'Argenteuil où il y a, sous l'influence d'Aragon, entre autres, une déclaration sur la charte de la liberté de création. Hein, l'art de parti, il faut absolument sortir de l'art de parti. Hein. Pas sûr que ce soit, je parle pas pour le Parti communiste, mais d'une façon générale, pas sûr qu'on soit sorti complètement de l'art des chapelles en général. Bon, bref, l'activité de création se poursuit, bien sûr, et naît un autre projet. Il y a un éditeur suisse, Skira, qui lance une nouvelle collection qui s'appelle « Les Sentiers de la Création ». Et il sollicite Aragon, qui écrira un texte dont l'esprit de la création, c'est de demander aux écrivains de s'expliquer sur leur propre création, hein, comment ils créent, à partir de quoi, etc. Donc Aragon écrira ce très beau texte qui s'appelle « Je n'ai jamais appris à écrire » ou « Les Incipit », hein, où il explique qu'à partir d'une première phrase qui vient par hasard se déroule tout un roman. Et Elsa, qui est également sollicitée, répond favorablement parce que ça va lui permettre de poursuivre ce dialogue avec l'image, hein, auquel elle a vraiment pris goût. Et ça va donner un très beau livre qui s'appelle « La mise en mots ». Et dans lequel elle va s'expliquer, elle va dialoguer avec des artistes contemporains, Nicolas de Staël, Francis Bacon, Henri Matisse, le photographe Cartier-Bresson, Man Ray, Paul Klee, et puis également avec des artistes anciens, voire même certains très peu connus, je pense à Nicolas Larmessin, d'autres plus connus, bon, le caricaturiste Daumier, le Gréco, Giovanni Di Paolo, Piranèse, enfin bon, elle va poursuivre ce dialogue et elle va également, elle, en tant qu'artiste, se justifier et essayer de tordre le cou à certaines rumeurs parce qu'on dit tellement de choses sur elle. Et voilà ce qu'elle en dit sur un ton très ironique.
Les écrits sont précédés de leur propre légende et de la légende de l'auteur. J'ai des yeux qui sont ceux d'Elsa. J'ai un mari qui est communiste. Communiste par ma faute. Je suis un outil des soviets. Je suis une femme à bijoux. Je suis une grande dame et une souillon. Je suis une soumise au réalisme socialiste. Je suis une socialiste et un être frivole qui fait du tricot, qui brode des histoires. Je suis Scheherazade, la grande romancière. Je suis la muse et la malédiction du poète. Je suis belle et je suis repoussante. On me bourre de pensées et de sentiments comme une poupée de son, sans que j'y sois pour quelque chose. Et elle va continuer également cette bataille des mots en décrivant également, tu as son peut-être deux mots à dire son bilinguisme, donc les...
Et son rapport, donc son rapport oui. à la langue russe.
Oui. Alors elle dira quelques mots là-dessus aussi. J'émaille à partir avec les mots. J'y vois des mots avec leurs racines, le poids du sens, le dessin. Je ne saurais plus m'en servir. Ne serait-ce pas plutôt un corps à corps avec la langue, conséquence de mon bilinguisme? On dirait une maladie. Je suis atteinte de bilinguisme. On me regarde de travers. À qui suis-je? Entre le russe et le français, j'improviserai sans doute plus facilement un discours en russe qu'en français. Il s'ordonne plus naturellement dans ma langue maternelle et me vient en français dans le désordre. N'est-ce pas que le passage de la pensée au mot est pour moi plus court en russe qu'en français?
Voilà, ce petit livre est vraiment très intéressant parce qu'il amène un éclairage. D'ailleurs, on peut vraiment regretter que cette collection ait disparu, parce que bon, il y a aussi d'autres titres. Je pense par exemple Michel Butor qui avait été sollicité et qui a écrit un excellent petit livre qui s'appelle Les mots dans la peinture. Et justement, il y a toute une réflexion sur les mots dans la peinture, comme l'indique le titre. Et Elsa s'y livre. Il y a une très grande liberté, dans ce texte, comme le texte d'Aragon, qui livre quelques clés justement de son art d'écrire. Alors, tout ça nous amène à l'ultime roman de d'Elsa, donc le Rossignol se tait à l'aube, qui va paraître donc en 1970, l'année de son décès. Et ce qu'il y a d'assez saisissant, c'est que Elsa, il y a des témoignages, hein, je crois que c'est au cours d'un repas avec les Segers, hein, ils sont très liés avec Pierre et Colette Segers depuis les années de résistance, Avignon, etc., Villeneuve-les-Avignons. Et le roman sort, et ben, c'est la question traditionnelle, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quel va être le sujet du prochain, etc. Et Elsa est ferme et catégorique, ben c'est le dernier, quoi. C'est fini, je n'écrirai plus. Elle est également pressée par Aragon. Alors, le Rossignol se tait à l'aube. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, l'action se passe durant une nuit d'été dans une riche propriété où des amis d'une vie, ils sont en tout une dizaine, dont certains ne se sont pas revus depuis de longues années, se trouvent réunis, tous déjà vieux, pour un dîner prolongé jusqu'à l'aube. Tout se passe dans les ténèbres, on n'allume pas comme pour cacher les ravages du temps sur chaque invité. Une seule femme est présente, et cette nuit de souvenirs, de retrouvailles, c'est elle qui la raconte. Cette nuit sera interrompue par des morceaux de rêve de l'héroïne. Et lorsque l'aube arrive et que le rossignol se tait, elle s'effondre et meurt subitement. Alors Elsa va imposer à l'éditeur, c'est toujours Gallimard, de publier l'ouvrage en deux couleurs d'encre, rouge et noir, une pour le récit et l'autre pour le rêve. Donc il va y avoir cette originalité-là. Alors on retrouve Elsa, l'Elsa réelle. En effet, la maladie de cœur dont elle souffre rend la marche difficile, et le rossignol se tait à l'aube donne à entendre les souffrances du corps. C'est l'histoire d'une vie à rebours. C'est avant tout la souffrance physique, la vieillesse et la maladie décrite comme Elsa sait le faire.
Le cœur. Elle fouille dans son sac, elle tremble. Un petit comprimé, le temps de le croquer et ça va s'arranger. Ça s'arrange dans un bonheur analgésique. Parfait. Les yeux fermés, elle se laisse glisser sur l'huile des violons, si fatiguée qu'elle souhaite rentrer, se mettre au lit. C'est sa fatigue même qui l'en empêche.
Et dans cette fin de vie, Elsa poursuit son dialogue avec Aragon.
Chaque fois que je te voyais arriver, venir, revenir, la belle surprise. Je t'ai tant attendu tout au long de ma vie.
Tu n'as pas perdu ton temps, mon cœur. Tu en as fait des choses pendant que tu m'attendais.
Non, je ne faisais que t'attendre. J'étais possédée par ton absence. Et aussi par ta présence. Il ne restait rien de ce que je suis. Si, des restes.
Alors on retrouve dans ce roman, on retrouve la tonalité de la lettre, si vous vous souvenez, la lettre qu'on a lue, cette fameuse lettre qu'elle a écrite à Aragon, et qu'il reproduit dans Blanche ou l'oubli, cette lettre si terrible, hein, écrite en 1965, et qui, justement, elle qui est l'égérie, la muse, et reprochant Aragon, finalement, de l'avoir jamais vu, jamais regardé. Et on retrouve cette amertume, hein, de la difficulté, du vivre ensemble et de l'être ensemble. Alors, tout ça nous amène au 16 juin 1970. où on va retrouver d'ailleurs, donc Elsa meurt, je crois que c'est vers 17h. Et là, il se trouve que la fin du roman, on est toujours dans le Rossignol se tait à l'aube, évoque directement la mort d'Elsa.
Il devisait tasse de café en main, se préparant à se séparer, à continuer, quand il leur arrive du parc un cri comme un long sifflet de locomotive. Une tasse lâchée, la porcelaine en miettes. Quelqu'un l'avait trouvée dans l'herbe, dans la rosée, à la renverse. Ses yeux ouverts les englobaient, tous dans un regard unique, en plein soleil. La nuit était bien finie. Il la voyait, qu'il se voyait. Il voyait tout, dans les plus petits détails.
Voilà, il se trouve que le jour même de la sortie du Rossignol, c'était au début janvier 1970, Aragon, ils sont au moulin, Aragon va chercher le courrier, va relever le courrier et il revient triomphant avec le Rossignol dans la main, Gallimard, hein, la collection blanche. Et ce jour-là, à ce moment-là, Elsa fait un malaise grave au moulin et elle s'effondre brusquement. Et de janvier à juin, ça va être plusieurs crises donc qui vont se succéder et s'enchaîner. Et donc le 16 juin, donc vers 17h, elle meurt. Et à ce moment-là, Aragon, qui est pourtant médecin, Aragon ne veut pas croire à sa mort et donc il appelle un médecin à qui il demande de lui faire des piqûres pour la ranimer alors que le médecin ne peut que constater son décès. J'ai retrouvé un texte qui est d'ailleurs cité par Lily Marcou et que la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet a publié. Enfin, il y a longtemps, hein, c'était en 1989, au début de l'association, c'est dans le numéro 8 de notre revue « Faites entrer l'infini ». Il y a eu à la Maison de la Culture de Bourges, hein, qui est la première Maison de la Culture d'ailleurs inaugurée en France par Malraux et De Gaulle, je crois. Le 21 janvier 1972, il y a eu un hommage qui a été rendu à Elsa à la Maison de la Culture de Bourges. Et Aragon a écrit un texte que je trouve assez que je trouve profondément émouvant. Un jour, un lundi, elle m'a dit le matin.
Tu sais, j'ai réfléchi à cette chose que tu m'as dit. Après tout, c'est vrai. Tu m'as dit entre autres que tu pouvais bien dire ça. Je ne t'avais jamais dit que je t'aimais.
C'est vrai, elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait.
Mais tu sais très bien que ce n'est pas mon genre. Mais enfin, au bout du compte, je vais te le dire. Oui, je t'aime.
Voilà, le Parti communiste va organiser les obsèques d'Elsa Triolet. Alors que, faut le redire parce que c'est une légende qui a la vie dure, Elsa Triolet n'a jamais été adhérente du Parti communiste et son cercueil est exposé dans le hall de l'Humanité qui à l'époque se trouve boulevard Poissonnière. C'est leur ami rencontré, on en avait parlé quand on a évoqué cet épisode de la guerre d'Espagne, donc rencontré à Madrid lors de leur voyage d'aide aux républicains espagnols, Pablo Neruda, prix Nobel de littérature, compagnon de toujours, celui qui a écrit le Canto General, le chant général, qui est l'équivalent du Fou d'Elsa, hein, c'est un monument de la littérature mondiale, ça. Pablo Neruda donc rend un bel hommage à Elsa Triolet Et je pense que pour terminer, je vais lire quelques extraits de cette image, de cet hommage. Donc voici quelques-unes des paroles qu'il prononça le jour des obsèques d'Elsa qui eurent lieu le 19 juin 1970. Notre ami a vécu les splendeurs et les douleurs de notre siècle. Sa vie et son témoignage, son amour et sa mort ont mérité le respect des hommes et des peuples, de ses amis et de ses ennemis. Elle paraissait invulnérable. Elle ne connaissait pas la peur. Elle était comme une épée aux yeux bleus. Voilà, c'est cette image de l'épée aux yeux bleus, puisqu'Elsa avait été une blonde aux yeux bleus, et je trouve elle est très juste concernant Elsa Triolet. Thank you.
Pour terminer cette émission, donc nous avons entendu un extrait de la musique de Jean-Sébastien Bach, interprété par Rostropovitch, Mitslav. C'est pas tout à fait choisi par hasard du tout, et Jean va nous donner quelques éclaircissements sur ce choix.
Oui, alors donc les obsèques, comme on vient de le dire, ont eu lieu donc le 19 juin. Elsa a été inhumée au cimetière de Saint-Arnoult et ensuite par dérogation, elle a été inhumée donc dans le jardin du moulin de Saint-Arnoult. Et Rostropovitch, qui était leur ami, parce que, hein, comme on l'a vu tout au long de ces émissions, Elsa est restée très très liée à un certain nombre d'amis russes. Rostropovitch, qui logeait chez eux rue de Varennes. Hein, bon, quand il était en tournée internationale, il était quand même plus ou moins surveillé discrètement, mais il venait dormir rue de Varennes, où il y avait la chambre à Rostro. Ils avaient baptisé cette chambre d'amis la chambre à Rostro, et ils venaient dormir chez eux. Et plus tard, dans l'année 1970, je sais plus exactement la date, je crois que c'est au cours de l'hiver, Rostropovitch est venu donc enregistrer en hommage à Elsa cette sarabande de Bach, la suite numéro 5, donc en hommage à son ami décédé. Et si vous allez au moulin, ben vous l'entendrez, elle est enregistrée et elle passe en boucle donc en hommage à Elsa Triolet. Alors, il y a également une anecdote concernant les obsèques, les seconds obsèques d'Elsa, lorsque donc le corps a été transféré du cimetière de Saint-Arnoult au moulin, il s'est trouvé que Aragon avait commandé un camion de roses, et à ce moment-là, un violent orage s'est déclenché. Et il y avait tout l'état-major du Parti communiste, Georges Marchais, Roland Leroy. Et Aragon a déposé les roses une à une sur la, et ça a duré des heures, quoi. Devant les ruisselants sous l'orage. Voilà.
Voilà. Ainsi donc, nous terminons cette série d'émissions consacrées à Elsa Triolet avec, Jean et Maria, Jean Knopf, Maria Berlioz. Je les remercie énormément, bien sûr, aussi, de ce travail considérable qu'ils ont réalisé. Bon, il n'est pas dit que nous n'aurons pas d'autres aventures littéraires et artistiques radiophoniques. On parlera de tout ça à la rentrée. Oui. Pour l'heure, eh bien, donc, cette série se termine et cette émission aussi. Bonne suite d'été à nos auditeurs.
Au revoir à tous.
Au revoir à tous.
Thank you.